Tiger Woods vient de compléter sa dernière ronde au tournoi Farmers Insurance Open du côté de San Diego. Il a joué la normale aujourd'hui. Ça le place donc à moins 3 au total des 4 rondes en 26e position. C'est un bond de 13 places par rapport au rang qu'il occupait après la 3e ronde hier. Et il est à 9 coups du meneur qui est actuellement Alex Noren, qui lui est à moins 12. Mais évidemment, la ronde n'est pas terminée. Son rang peut changer, évidemment. Au cours de la nuit dernière, il y en a une qui a veillé pas mal tard, pas mal toutes les nuits au cours des deux dernières semaines. C'est Hélène Pelletier qui faisait la description des matchs du premier grand chelem de la saison au tennis aux Internationaux d'Australie. On la rejoint tout de suite. Bonjour Hélène.
Allô Pierre.
Là, tu es en mode retour à l'heure normale ou...
C'est ça le but, oui, aujourd'hui.
Dis-moi,
c'est facile à dire qu'à faire.
Oui, j'imagine, oui. Tu as vécu dans un gros décalage pendant deux semaines. Avant de parler de la victoire de Roger Federer et de la victoire de Caroline Wozniacki, puis de faire un petit peu le bilan des deux semaines, il faut parler de Gabriela Dabrowski.
Oui, oh, c'était
fantastique.
Oh, oui, c'est exceptionnel. Et c'est drôle parce que aujourd'hui en finale, c'était contre Babos et Bopana. Et
ouais.
Si on se souvient bien... À Roland-Garros, l'année dernière, Dabrowski jouait avec Bopana, puis elle avait gagné les internationaux de Roland-Garros avec lui. Et là, maman, pas qu'est-ce qui est arrivé entre les deux. La poignée de main a été très, très froide après le match, mais Dabrowski et Pavchik ont eu balle de match contre eux, balle de championnat contre eux, alors qu'on joue un long tie-break à la dernière manche. Et puis, ils ont réussi à renverser la vapeur et finalement gagner le match 11-9 au bris d'égalité, ce qu'on appelle le super tie-break de la dernière manche. Alors, c'est un parcours de rêve. Et encore une fois, elle se débrouille tellement bien. Elle retourne à gauche, hein, et c'est fantastique parce que normalement, comme tu le sais, les points à gauche, ils sont quasiment tous importants. Normalement, on met la personne la plus forte à gauche, et elle joue à gauche même lorsqu'elle est en double mixte. Alors, les joueurs essaient de la pilonner au service, puis elle a réussi un retour gagnant, comme elle l'avait fait à Roland-Garros, c'est elle qui avait aussi sauvé le match, réussi un retour gagnant pour aller chercher la victoire. Alors, c'est vraiment fabuleux pour elle. C'est une fille qui n'a pas réussi à faire sa place en simple féminin, et c'est dommage parce que quand même, elle avait un beau talent chez les juniors et tout ça, elle s'est consacrée au double, et regarde-la aller aujourd'hui, deux fois titrée en Grand Chelem.
Qu'est-ce que ça prend comme habileté particulière pour exceller, pour une fille en double mixte, alors que tu as à recevoir des coups puissants des gars de l'autre côté, là?
Exactement. Alors, il faut être très, très forte physiquement. Il faut pas avoir peur de la balle. Il faut aimer avoir la balle au filet parce que tu sais que la plupart du temps, c'est toi qu'on va viser. Et c'est une fille qui est quand même grande, qui est costaude. Puis, elle se débrouille bien. Elle se débrouille bien. Puis, je trouve malgré tout que dans son jeu, il pourrait y avoir certaines améliorations, que ce soit au service, que ce soit également en coup droit. Et même à la volée, quelquefois, elle est un peu coincée lorsque la balle vient assez rapidement sur elle. Mais écoute, elle gagne. Elle gagne. Elle fait des choses fantastiques. Alors, elle est en train de vraiment bien gagner sa vie en double. Et honnêtement, on ne peut que se réjouir parce que la transition des juniors au pro n'a pas été facile pour elle. Alors, je suis vraiment, vraiment contente qu'elle soit capable là, de... Écoute, elle est 15e au monde en double.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc, elle va gagner des rangs, j'imagine, encore au classement qui va sortir demain matin.
Exact.
Bon, mais c'est magnifique. On va la surveiller, évidemment, dans les prochaines compétitions. Parlons des deux principales finales. Roger Federer, à 36 ans, qui gagne un 20e titre Grand Chelem. Est-ce que c'est inattendu? Est-ce qu'il a simplement profité du forfait de Nadal?
C'est un mélange de bien des choses, en fait. Mais même si Federer nous disait, tu te souviens, Pierre, en début de tournoi, qu'il fallait pas le considérer à 36 ans et presque 180 jours comme le favori du tournoi, on le savait que, dans le fond, c'était le favori du tournoi. Champion en titre, il a remporté deux grands chelems l'année dernière. Il a connu une année vraiment tout à fait spéciale avec des moments d'arrêt, n'a pas joué du tout sur terre battue, voulait absolument aller chercher le titre à Wimbledon. Open, ce qu'il a su faire d'ailleurs aussi. Alors, deux titres du Grand Chelem l'année passée. Il commence l'année en jouant la Coupe Hopman. Il a gagné ses 8 matchs, c'est-à-dire 4 matchs de simple et 4 matchs de double mix avec Belinda Bencic. Puis, regarde-le aller. Il va jusqu'au bout. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'avait pas perdu de manche à l'intérieur de la quinzaine avant de se présenter en finale. Et aujourd'hui, ce qui est fantastique, Pierre, c'est que je pensais vraiment qu'il avait laissé passer sa chance, Federer. Il gagne le premier set parce que l'autre, pas tout à fait là en début de match. Cilic n'arrivait pas à mettre une balle en jeu, il servait mal en plus. Alors Federer remporte le premier set vraiment très, très facilement, très rapidement. Mm-hmm. Et par la suite, au deuxième set, on sent que son niveau de jeu baisse un peu. Puis la bonne nouvelle, c'est que Cilic a mis de côté la pression. Finalement, même si Federer a eu des balles de bris à 1-1, à 2-2, puis il serait bien facilité la tâche s'il avait brisé à 4-4 alors qu'il a eu une autre balle de bris, parce qu'il aurait tout de suite après servi pour mener 2-7 à 0. Et à partir de là, je ne suis pas certaine que Cilic avait ce que ça prenait pour revenir. Mais Federer s'est un peu perdu, n'a pas profité de ses chances. Et Cilic a joué un très, très beau bris d'égalité. Il a passé sa vie en bris d'égalité, lui, lors des deux dernières semaines. Écoute, il a joué pendant 17h03 lors de ses 6 matchs précédents. Il a livré 8 bris d'égalité. Il en avait gagné 6. Donc, un bris d'égalité de plus, il s'est senti à l'aise. Il a bien fait les choses. Et soudainement, Federer a vu son niveau de jeu, comme je le disais, baisser un tout petit peu. Puis, il a eu un peu de difficulté avec son tennis d'attaque. L'autre a vraiment commencé à dominer les échanges, à super bien jouer en fond de terrain, à bien servir, à contrôler les points. Et c'était impossible. La balle de Federer ne débordait pas de Cilic. Et ça, évidemment, c'est difficile à vivre pour le Suisse, parce qu'il est obligé de jouer un peu plus en contre-attaque et de travailler très, très fort physiquement. Mais Federer a recommencé à travailler avec énormément d'acharnement. Il mène finalement, tout ça pour te dire que Federer mène 2-7-1 et qu'il a le bris d'entrée et mène 3-1 à la quatrième manche, en se donnant même d'autres chances de mener par deux bris d'avance. Il laisse filer ça. À partir du fait que Federer menait 3-1 à la quatrième manche, Cilic a fait une remontée absolument incroyable. Il a gagné 5 parties de suite. Et là, on ne savait plus trop au cinquième set si Federer avait les munitions que ça prenait pour aller chercher la victoire. Mais il le fait avec brio. Mm-hmm. Un cinquième set quasiment parfait pour le Suisse. Je te dis, il est vraiment impressionnant. Dans sa façon de faire, dans sa façon de bouger, dans son attitude également, on voyait vraiment que c'était un match et évidemment un championnat qu'il voulait aller chercher. Puis, il a connu une quinzaine exceptionnelle, tandis que Cilic s'est peut-être un peu trop éparpillé. Mm-hmm. Et tu sais, quand tu joues 6h13 pendant les deux semaines de plus que l'adversaire, ça finit toujours par te faire mal, et c'est ce qui est arrivé. Il a manqué de ressources au cinquième set.
Ouais, justement, c'était justement mon prochain point concernant Federer, qui a eu pratiquement une journée de congé en demi-finale, ou un demi-congé avec l'abandon de Yeon Chung, le Coréen, qui était blessé à un pied, je pense.
C'est exact, il avait des grosses blessures, des grosses ampoules sous les deux pieds, et principalement sous le pied gauche.
OK, donc ça a été un avantage pour Federer aujourd'hui, ça lui a permis de garder des énergies pour la finale.
Oui, ça fait partie, évidemment, on le dit toujours, surtout en première semaine, alors que, évidemment, Cilic a eu de la difficulté à même finir son premier match contre notre Canadien Pospisil. Un gros 5-7 devant Carreño Busta, même contre Vašek, ça a été en 4-7, mais il a fait traîner les choses, il a laissé traîner les choses, Cilic, 3h17, donc 17h03 en 6 matchs, c'est beaucoup.
Je te mets au défi 1 minute 30 pour faire le bilan des Canadiens et Canadiennes. Ça va être assez court parce que leur parcours a été assez court, j'imagine.
Non, mais écoute, pas spécial, c'est ça. Il a mal commencé son match contre Cilic au premier tour. Il est quand même bien revenu. Moi, j'ai quand même aimé beaucoup la performance de notre Canadien, Denis Shapovalov. Il a gagné son premier tour et il menait dans le match face à Joe Wilfried Tsonga, qu'il avait battu d'ailleurs au US Open l'année dernière. Puis c'était tellement, tellement serré. Malheureusement, le kid a manqué un petit peu d'expérience. Il est devenu un peu nerveux alors qu'il servait pour le match à 5-3 au cinquième set. Ça s'est joué à quelques petits riens, mais je trouve qu'il s'est amélioré en l'entre-saison. Il a travaillé extrêmement fort. Donc, c'est ce que je retiens de sa part. C'était très, très intéressant. Même s'il a perdu le match cette fois-ci, il a 18 ans, puis il apprend. Du côté d'Eugénie Bouchard, ben écoute, elle a connu une bonne première victoire devant Océane Dodin. Et par la suite, ben Halep, qui venait de se tourner la cheville, a joué un match absolument hallucinant. Puis Halep aurait pu gagner le championnat. Alors, c'est pas une honte. Et du côté de Miloš Raonic, là, je me pose de grandes, grandes questions. Miloš est en surpoids. Miloš n'arrivait pas à bien bouger. Et je pense qu'il n'a pas été capable de s'entraîner, évidemment, en raison des nombreuses blessures qui l'ont encablé dans la dernière année. Il représente pour moi, malheureusement, un immense point d'interrogation.
OK. Il me reste à peu près 2 minutes, puis je veux qu'on s'obstine un peu. Ben, je pense qu'on va s'obstiner. Est-ce que les internationaux d'Australie sont pas trop tôt dans la saison? Il fait extrêmement chaud. Les joueurs sont plus ou moins en forme. Il y a beaucoup d'abandons. Il y a beaucoup de forfaits avant même que ça commence. Est-ce que, tu sais, j'ai l'impression que ça ressemble à un gros tournoi de mise en forme.
Mais c'est sûr que ça vient trop vite. Tu sais qu'il n'a pas, moi, dans mes années, on jouait pas les internationaux d'Australie au mois de janvier, mais on est au cœur de l'été.
Ouais, c'est Australie. L'équivalent de la fin juillet là-bas, ici.
Exactement. Les gens sont en vacances. Il y a beaucoup d'enfants. On l'appelle le Happy Slam. C'est pas par hasard. C'est que l'intersaison, c'est trop court. Ouais. Les joueurs qui jouent la Coupe Davis, ça va jusqu'au dernier week-end du mois de novembre. Alors, c'est sûr que c'est tellement compliqué pour les joueurs qui ont été blessés assez gravement. Puis, ça donne que cette année, ben, t'as Murray qui a subi une opération incapable de jouer, l'opération à la hanche. Nishikori n'était pas là. Miloš Raonic, on a vu qu'il n'était pas prêt. Novak Djokovic, ben, c'était un retour au jeu après plusieurs mois d'absence. Il y a plein de joueurs comme ça qui, évidemment, n'étaient pas prêts. Et d'autres qui ont eu le temps de faire une belle pause, qui ont eu le temps d'entraîner très, très fort. Alors, on a vu des progrès du côté de certains joueurs comme Kyle Inman, qui a atteint la demi-finale, et également Young Chong. Malheureusement, il avait tellement, tellement joué, Chong, qu'il a eu de la difficulté à cause de ses blessures et ses ampoules aux pieds, et quand il fait très, très chaud. Et la difficulté, je te dirais, Pierre, à Melbourne, c'est que c'est le genre de ville, et dans cette partie du monde, on a toujours dit, et moi je l'ai vécu personnellement aussi, la ville de Melbourne est une ville où, dans la même semaine, tu peux avoir 3 saisons. On s'amuse à dire que dans la même journée, tu peux avoir 3 saisons.
Ouais,
alors, peux-tu m'expliquer pourquoi on a fermé le toit aujourd'hui alors qu'il faisait 36-38 et qu'on a laissé, en début de tournoi, les joueurs jouer dans des conditions de 43 avec des 80% d'humidité. Ouais. Alors, tu sais, c'est extrêmement difficile physiquement, mais les joueurs apprécient quand même se retrouver à l'autre bout du monde parce que les gens sont tellement généreux, les gens sont accueillants, c'est la fête parce que c'est l'été, mais t'as bien raison, parce que ça force les joueurs à passer même Noël et le jour de l'an à l'extérieur de la maison. Alors, ça vient extrêmement vite. Mais il n'y a pas beaucoup d'autres solutions parce que regarde l'horaire, tu vas le placer où sinon?
C'est ça. Ben, Hélène, on va s'obstiner sur d'autres choses une autre fois. Bon.
On n'est pas dû pour chicaner aujourd'hui.
Ça va. Merci beaucoup et bon retour à la réalité du Québec.
Merci. Bye-bye.
Salut. Hélène Pelletier avec qui on jase de tennis. Après la pause, on va faire le tour des principaux résultats qui nous intéressent et peut-être des petits extraits sonores d'Anthony Auclair qui a complété sa première saison dans la NFL, un ancien du Rouge et Or de l'Université Laval au football.